J'ai intitulé assez bizarrement cette prédication « Ne gaspillons pas notre cancer ». J'ai été frappé par ce titre qui a été donné à une étude biblique de John Piper. Voilà, je vous montre. John Piper, c'est un pasteur, un prédicateur, un professeur de théologie américain qui était venu à l'Institut biblique de Genève pour une conférence et qui participe à la réflexion de cet institut. J'ai été frappé par ce titre et lui, il l'a fait suite à un cancer de la prostate. Parce que ce genre de titre, il n'y a guère que les gens qui sont passés par là qui peuvent en parler. Vous savez peut-être, je pense plusieurs d'entre vous savent que je suis moi-même passé par un cancer et que peut-être ça me donne un peu le droit d'en parler. On a... Je crois vraiment le droit de parler de certaines choses quand on y est passé soi-même. Et j'aimerais que vous preniez pas le mot cancer dans son sens étroit, c'est-à-dire une maladie bien précise. Mais notre cancer, ça peut être toute épreuve qui nous atteint et qui dure. Ça peut être une autre maladie. Ça peut être, je ne sais pas, une polyarthrite rhumatoïde ou tout ce qui peut nous diminuer, nous affaiblir pour un temps. Ça peut être le chômage, ça peut être les difficultés financières, ça peut être une mésentente avec ses proches. Alors comme je ne vais pas vous dire tout ça à chaque fois je vous dirai cancer, mais vous dans votre tête, vous pouvez mettre un autre mot, une autre réalité. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Enfin, c'est un conseil. Hein. Ce tome-là, Nick, alors ça se prononce Wojcicki, je crois. Il est né sans bras ni jambes. Un tronc et une tête. Et il a maintenant une trentaine d'années. Et il écrit donc ce livre, qui est un livre éclatant de gaieté, de joie, de bonheur, et qui fourmille de conseils pour les personnes qui passent par l'épreuve. Et je vous incite, si vous ne l'avez pas lu, à le lire. C'est vraiment étonnant de voir comment ce jeune homme, par sa foi en Christ, a pu surmonter cette épreuve terrible d'être complètement dépendant des autres. Alors, on peut d'abord se poser une question, pourquoi est-ce qu'il m'arrive un cancer ou un autre souci? Et la première chose qui vient à notre esprit, c'est de parler du pourquoi et de nous chercher des explications. Nous ressentons souvent ça comme une injustice, pourquoi moi j'ai ça et pas les autres? Et puis, nous cherchons aussi des explications. J'ai bien aimé ce qu'avait dit Patrick Chouzenou, lors de notre rencontre en commun avec l'église de Villefranche-Béligny l'autre jour. Il disait que parfois nous nous posons la question, pourquoi est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'envoie cela? Et nous ne pensons pas à nous poser la question, est-ce que je suis tellement précieux aux yeux de Dieu que Satan juge utile de me déstabiliser? Et je pense que c'est bien de voir les deux versions de cette question. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas tellement m'aventurer vers le pourquoi, mais plutôt vers le vers quoi. À quoi ça va me servir? Seigneur, aide-moi à ne pas gaspiller mon cancer. C'est une drôle de prière. Alors, comment peut-on gaspiller son cancer? Je gaspille mon cancer s'il ne m'apprend rien sur Dieu. Dieu est souverain. Il est tout-puissant. Il maîtrise tout. Vous connaissez une des dernières paroles de Jésus avant l'ascension ? Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Est-ce que nous le croyons ? Mais si nous le croyons, nous devons admettre que cette maladie, que cette infirmité, que cette épreuve nous vient du Seigneur, est permise par le Seigneur. Et comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut permettre de telles choses ? Parce que Dieu est amour. C'est quelque chose qui est répété souvent dans la Bible, et notamment dans la première épître de Jean. Donc cette épreuve, c'est une manifestation de son amour. Il y a quelque chose de bon pour moi là-dedans. De bon pour moi, et peut-être aussi de bon pour mon entourage, pour mes frères et sœurs. Et souvent, nous faisons double peine. Vous savez, on entend ça parfois à la radio, des gens qui font double peine. Ils font de la prison et en plus, ils sont exclus du pays. Nous faisons double peine si nous croyons que ce cancer, non seulement c'est une maladie, mais en plus c'est une malédiction de Dieu. Et non pas un cadeau. Alors, je ne suis pas en train de dire « réclamons un cancer ». Seigneur, par pitié, envoie-moi un cancer. Envoie-moi du chômage. Envoie-moi une polyarthrite rhumatoïde. Non, on ne peut pas. Mais je suis en train de dire, puisque Dieu m'a envoyé cela, qu'il est souverain et qu'il est amour, c'est qu'il a quelque chose à m'apprendre avec cela. Vous connaissez le livre de Job, Job qui était accablé de toutes sortes d'ennuis, et quand sa femme voit tous les ennuis que son mari a, elle lui donne ce curieux conseil, elle lui dit « maudit Dieu et meurs ». Ah, c'est sympa comme conseil. Et Job refuse cette attitude, il refuse de maudire Dieu. Et l'auteur du livre de Job nous dit qu'en faisant ainsi, il a bien agi. C'est le premier chapitre du livre de Job. Il y a quelque temps, nous avions introduit avec Pascal et Laurence la première partie de ce culte en lisant le psaume 116. Et dans le psaume 116, il y a ce verset 15 qui est curieux. Il est d'autant plus curieux qu'on a l'impression qu'il vient un peu comme un cheveu sur la soupe. « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel » la mort de ses fidèles. Dieu n'est pas un Dieu désinvolte qui gaspille la vie de ceux qu'il aime, qui gaspille la vie ou la mort de ses fidèles. Tout est précieux à ses yeux. Il nous faut donc apprendre à considérer l'épreuve comme une marque de son amour et de son attention. Alors, ça veut dire qu'il a un plan. Les points précédents, nous gaspillons notre cancer si nous ne réalisons pas que Dieu a prévu cette maladie dans son amour parce qu'il a un plan pour notre vie. Alors ce plan ne nous sera pas forcément dévoilé. Si vous regardez le livre de Job, vous avez 40 et quelques chapitres, et à la fin du livre de Job, Job n'est pas plus avancé sur le pourquoi de sa maladie. Il n'en sait rien. L'auteur du livre, lui, le sait, mais Job ne le sait pas. Il ne sait pas pourquoi. Et peut-être bien que nous ne saurons jamais pourquoi Dieu nous a envoyé une épreuve. Ma sœur est décédée à 46 ans d'un cancer de l'intestin, en laissant 3 enfants qui étaient ados à l'époque. Elle n'a jamais su pourquoi le Seigneur l'avait rappelé. Moi, j'ai ma petite idée. Après des années passées, c'est que mes 3 neveux sont engagés avec le Seigneur, ont des conjoints engagés avec le Seigneur, ont des enfants engagés avec le Seigneur. Tous. Est-ce que si ma sœur avait vécu, est-ce que ça serait passé comme ça? Je ne sais pas. Jacques nous dit, vous savez, Jacques, c'est le petit frère du Seigneur. Il nous dit, premier chapitre, verset 2, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. » Donc c'est beaucoup demandé de considérer comme un sujet de joie ce qui nous fait tant de mal. Certains y sont arrivés. Marc nous a parlé, il y a la dernière fois qu'il a fait une prédication, de cette femme roumaine qui a écrit ce livre qui s'appelle « Béni sois-tu prison » et qui est arrivée à considérer comme une bénédiction le fait qu'elle était emprisonnée en Roumanie pour sa foi. Mais sans aller jusqu'à la joie parfaite, ne sombrons pas dans la dépression, dans la désespérance, comme si c'était un rejet de la part de Dieu. Je continue. Toujours dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a confus, enfante le péché, et le péché est parvenu à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Dieu sait ce qu'il fait en nous envoyant une épreuve. Les dons excellents viennent d'en haut. Et un de ses buts, c'est de nous rapprocher de lui. Il nous vaut plus proche, plus dépendant. Nous gaspillons notre cancer si nous cherchons la consolation dans les publications médicales. Oh, combien j'ai de pourcentage de chances de guérir en faisant tel traitement et tel autre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se renseigner un petit peu, mais il y a des gens qui vivent là-dedans et qui sont à l'affût de la moindre technique qui va leur accorder un petit pourcent supplémentaire. Nous gaspillons notre cancer si nous nous confions dans les hommes qui nous guérissent. Je suis bien placé pour vous en parler. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles, mais ce n'est pas eux qui guérissent, c'est Dieu. Il y a une belle phrase d'Ambroise Paré, chirurgien du roi, qui dit à propos d'un de ses patients: je l'ai soigné, Dieu l'a guéri. Nous gaspillons notre cancer si nous passons plus de temps à lire des publications médicales qu'à lire la parole de Dieu. Jésus nous dit, Matthieu 6, verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ne leur ressemblez pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, mais ne pas considérer la prière comme quelque chose de magique. Ne leur ressemblez pas, car Dieu sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est dans chacune de nos prières pour notre propre guérison, pour être débarrassé du cancer. Cette prière est légitime. Elle est légitime, mais quand même, que ta volonté soit faite. C'est Dieu qui décide. Le psaume 34 dit « Quand les justes crient, l'Éternel l'entend. Et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel les délivre. » Dieu ne nous promet pas la guérison. Il nous promet son secours. Il nous promet d'être là, d'être près de ceux qui ont le cœur brisé. Parce que quand on a un cancer, on peut peut-être avoir mal à la prostate ou ailleurs, mais on a le cœur brisé. Parce qu'on réalise quelque chose qu'on avait bien caché jusque-là, qu'on est fragile. On le verra après. Et Job a cette belle phrase aussi, quand il est au plus profond de ses discussions avec ses amis, qui l'accusent, qui l'accablent. Et il dit, chapitre 13, verset 15, « Même si Dieu voulait me tuer, je m'attendrai à lui. » Donc, si nous ne voulons pas gaspiller notre cancer, notre chômage, notre dépression, notre rhumatisme, sachons que Dieu est souverain, qu'il est amour, qu'il a un plan pour nous à travers cette épreuve et que ce plan comporte plusieurs choses, mais surtout qu'il me veut plus proche de lui. Je peux aussi gaspiller mon cancer s'il ne m'apprend rien sur le monde. Romains 8, verset 18 et les suivants nous dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Un jour, nous aurons un corps glorieux, sans maladie, sans faiblesse, sans rien, sans cancer. Mais en attendant, nous faisons partie de cette création qui tout entière soupire, tout entière est soumise à ce qu'on appelle, ce que ce passage appelle la vanité, le pouvoir du rien, le pouvoir du néant, le pouvoir de la destruction. Et pourquoi est-ce que la création est soumise à ce pouvoir? C'est parce que les hommes l'ont voulu ainsi. Adam a choisi ainsi, et tous les hommes ensuite ont confirmé ce choix de préférer le mal à suivre Dieu. Nous sommes solidaires de cette création qui soupire et nos gémissements s'inscrivent dans les douleurs de l'enfantement de toute la création. Et notre espérance, c'est l'espérance d'attendre notre rédemption de notre corps, d'attendre notre délivrance complète. Nous devons prendre conscience de notre fragilité. Notre cancer est la conséquence du péché, oh, pas forcément le nôtre, mais le péché en général, la condition pécheresse de notre monde. Ce n'est pas pour rien que dans Isaïe 53, connaissez ce très beau passage sur le serviteur souffrant, et dans le même verset, il est dit qu'il a porté nos péchés et qu'il s'est chargé de nos maladies. C'est qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les maladies des hommes et les péchés des hommes. Grâce à notre Sauveur, nous savons qu'un moment arrivera où nous serons guéris. Ce ne sera peut-être pas sur cette terre. Je peux gaspiller mon cancer s'il ne m'apprend rien sur moi. Je suis fragile, impuissant, incertain. Il y a un psaume qui dit que l'homme, toute chair, est comme l'herbe. Un vent chaud arrive et elle périclite. Comme notre monde, dont je fais partie, je suis fragile, je suis soumis à tellement de forces, tellement d'influences. Heureusement que Dieu veille sur moi. Et je suis tellement fragile que je ne sais pas comment je vais. Il y a des amis qui, de temps en temps, qui ne m'ont pas vu depuis longtemps, qui savent que je suis passé par cette épreuve il y a quelques années, qui me disent « Comment tu vas ?» Et c'est le cas aussi de John Piper. Et j'aime bien sa réponse. Il dit « Mais je ne sais pas comment je fais, je vais. » Il répond « Je me sens bien et les médecins sont satisfaits. » Je ne sais pas comment je vais. Dieu sait comment je vais, mais moi je ne le sais pas. Nous sommes dépendants de Dieu et précieux pour lui. Ce psaume 40 au verset 17 qui dit « Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours, mon libérateur, ô mon Dieu, hâte-toi. » Je suis mortel. Il faudra bien qu'un jour ça me rentre dans la tête. Et peut-être que mon cancer va me permettre de penser que je suis mortel, de l'accepter. Mon cancer me permet de penser à la mort. Et si vous y réfléchissez, on n'y pense pas si souvent que ça, qu'on va mourir. Pensez que nous repoussons la plupart du temps. Ah, j'ai vécu auprès de certains de mes patients de belles morts. Et notamment auprès des religieuses qui avaient à Pommiers. Certains d'entre vous ont connu, parce qu'on les avait rencontrés une fois ou d'autre, le groupe de religieuses qui était en fait une maison de retraite pour religieuses qui était à Pommiers. Et j'ai vécu auprès de ces femmes des choses extraordinaires et des morts extraordinaires, des morts attendues, accueillies, paisibles. Une de ces religieuses me disait « Mais docteur, ne vous faites pas tant de soucis, je vais mourir. Ben, c'est très bien comme ça. Surtout ne faites rien qui puisse ralentir les choses. Mon Seigneur m'attend. » C'est une belle mort. Elle est morte paisiblement. Ça me rappelle cette expression de l'Ancien Testament qui est, je crois, j'ai trouvé 5 fois pour 5 personnes différentes. Il mourut rassasié de jour. Ah, vous savez, quand vous avez bien mangé, vous n'avez plus faim, eh ben, vous êtes rassasié. Ben là, c'est pareil. Ah non, moi, un jour de plus, ça serait trop, merci. Voilà. C'est beau comme expression quand même. Rassasié de jour. Cette maladie aussi peut nous donner du temps. Du temps pour... Vous savez, dans le quotidien, on est toujours pressé. Et puis un beau jour, vous vous retrouvez en arrêt de travail. Et puis vous vous retrouvez dans les salles d'attente. Qu'est-ce qu'on fait dans les salles d'attente? On attend. Vous vous retrouvez dans des transports pour aller... Moi, j'ai beaucoup apprécié, par exemple, mes séances de radiothérapie. Pas les séances elles-mêmes, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais le transport, le contact que j'ai pu avoir avec mon chauffeur de taxi, qui était toujours le même, qui était une dame, et le temps qu'on a pu avoir, le temps pour parler du Seigneur, le temps qu'on peut avoir pour prier, pour lire la parole, alors qu'on est toujours pressé dans la journée quand on travaille. Nous gaspillons notre cancer si nous nous affligeons comme ceux qui n'ont pas d'espérance. dit 1 Thessaloniciens 4. Car nous avons vraiment l'espérance de vivre un jour avec le Seigneur, sans maladie, en pleine force, en pleine forme. Et puis mon cancer va peut-être me donner la possibilité de me conformer à des règles prescrites par Dieu. Par exemple, est-ce que je vais demander à mes frères et sœurs de prier pour moi ? Et si je le fais, je me dévoile un peu moi-même. Je me mets en situation de faiblesse. Est-ce que vous pouvez prier pour moi parce que je suis malade ? Parce que je n'ai plus d'argent ? Parce que je n'ai plus de travail ? Parce que je ne m'en sors pas ? Prier pour la guérison, ça peut aussi comprendre de se dire « Et si je demandais une onction d'huile ?» On trouve ça dans l'épître de Jacques au chapitre 5. Si je demandais à des anciens de l'Église de venir prier personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait parce qu'une de mes cousines, qui était passée par le même chemin que moi, je lui ai dit « Est-ce que je vais guérir ?» Je lui ai posé la question. C'est la question qu'on se pose. « Est-ce que je vais guérir ?» Elle m'a dit « Mais c'est pas la question qu'il faut te poser, ça. » Ça regarde le Seigneur. Toi, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire pour guérir ? Et qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire ? Eh bien, Jacques 5 dit, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors j'ai dit, ben voilà, puisque le Seigneur me le demande, je vais faire ça. Je vais demander l'onction d'huile. Et à l'époque, Marc, entre autres, est venu à la maison et on a fait cette petite cérémonie. Voilà, moi j'avais fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Maintenant, s'il doit me guérir ou pas me guérir, c'est lui que ça regarde. C'est sa responsabilité. Très souvent, on ne voit pas. Je parlais de cancer. Le cancer, c'est une maladie qui fait du bruit. Mais très souvent, on n'est pas conscient que le Seigneur nous guérit. De tas de choses. Si vous avez la grippe, probablement vous allez guérir. Et vous allez dire, ben, c'est naturel, c'était que la grippe. Non, ce n'est pas naturel. C'est parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. C'est parce que c'est lui qui nous a guéris. Un des reproches que Dieu fait à son peuple, on trouve ça dans le livre d'Osée, chapitre 11, verset 3. Osée est le porte-parole de Dieu, et Dieu fait des reproches à son peuple, et notamment sur sa conduite dans le désert. Et un de ses reproches, c'est de dire, ils n'ont pas vu que je les guérissais. Ils ne se sont pas rendus compte que je les guérissais. Ce qu'ils ont cru comme étant naturel, et nous sommes tous comme ça. Si nous nous tordons la cheville un soir, ou la cheville un peu grosse comme ça, le lendemain, ça dure 3 jours, et puis après, ça y est, la cheville est guérie. On dit, enfin, voilà, ça guérit, c'est normal, c'était pas grave. Non, c'est le Seigneur qui nous a guéris, mais on n'en est pas conscient. Dernier point, je vous rassure. Je gaspille mon cancer s'il ne m'en prend rien sur mes devoirs envers les autres. Les gens autour de moi ont besoin de mon témoignage. eux aussi sont malades. Lorsque je parle du Seigneur, si je suis en bonne santé, heureux, confiant, tranquille, riche, travailleur, enfin travaillant en tout cas, et que je m'adresse à des personnes qui ont des soucis, et que je leur dis « Vous inquiétez pas, le Seigneur prend soin de vous », mon témoignage a que peu de valeur. Et s'ils savent que je suis malade, s'ils savent que je suis passé par des épreuves, ou que des proches à moi sont passés par des épreuves, que j'ai des soucis de travail ou autre, alors mon témoignage a de la valeur. Mon cancer n'est pas gaspillé parce qu'il est utile à ce que mon témoignage rende gloire à Christ. Nous partageons les mêmes mots que les autres, mais nous pouvons leur apporter un éclairage, une solution que les hommes et femmes autour de nous ne peuvent pas connaître. Et puis les gens autour de nous ont besoin de ma compassion. Le fait d'être malade permet de devenir un consolateur, de comprendre les personnes. Même au niveau professionnel, je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé personnellement, à comprendre les personnes malades. Et aussi à leur montrer que je pouvais les comprendre. C'est quand j'ai une personne qui doit faire une radiothérapie dans ma clientèle, je dis, ben oui, moi j'en ai fait une. Ah ben tout de suite, ah bon, et comment ça se passe? Bon, écoutez, ça se passe pas mal, voilà. Ah, tout de suite, ça permet à la personne de dire, ah ben lui, il peut en parler, il sait de quoi il parle. Et c'est ce que l'épître aux Hébreux nous explique à propos de Jésus lui-même. Ce qui est pleinement vrai pour Jésus est aussi un peu vrai pour nous. Hébreux 2, verset 14, « Puisque les enfants de Dieu sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à la nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient le pouvoir de la mort et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclavage durant leur vie entière. » Verset 17, « Il devait devenir en tout semblable à ses frères afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de Dieu pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il est passé lui-même par la tentation et la souffrance. » Jésus est venu du ciel pour prendre notre nature, pour souffrir les mêmes maux que les hommes, pour souffrir la même fragilité, la même faiblesse. Et c'est parce qu'il est passé par ce chemin qu'il peut comprendre, qu'il peut avoir compassion, qu'il peut sauver. Nous pouvons faire un peu la même chose. Et c'est en ce sens-là que mon cancer, ma souffrance, mon épreuve, me permet de suivre un chemin qui ressemble à celui de Jésus. Il s'est rendu semblable à ceux qui souffrent. Il peut consoler puisqu'il a souffert. Pour cela, il a fallu qu'il descende de son ciel. On pourrait presque dire qu'il descende de son piédestal. Il s'est mis au service des hommes, tout en restant proche de son Dieu et prêt à obéir jusqu'au bout à la volonté de Dieu. Alors, il n'est pas question, je le redis encore, de réclamer des épreuves, des souffrances. Lorsque nous sommes en bonne santé, utilisons notre santé pour le Seigneur. Mais ne nous fourvoyons pas lorsque la souffrance arrive. Elle a son utilité. Elle est voulue par Dieu pour une raison bien précise ou pour plusieurs raisons. Même si cette raison nous échappe, elle nous perfectionne, elle nous ouvre au Seigneur, elle nous ouvre aux autres. Une petite phrase d'encouragement. Jésus dit à ses disciples, Jean 16, verset 33, « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. »